Alors Louis Bélanger, je précise aussi qu'avec ceux qui travaillent avec vous, vous avez fondé Psylog, qui est une sorte d'agence de renseignement du psy finalement, et qui se propose, je pense, de collecter un maximum de témoignages. Alors ça m'amène aux questions qu'on nous pose depuis le début de l'émission. Je vais vous en poser quelques-unes, si vous voulez, vous répondez en bloc, hein?
Oui.
Vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bon, alors donc, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous demandent de dire, si vous le souhaitez, enfin, d'affirmer. Est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer qu'il y a derrière les phénomènes paranormaux, nous demande-t-on, autre chose qu'illusion et autosuggestion? Ça, c'est tout un groupe de questions qui vient. Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez, vous êtes en mesure d'affirmer qu'il y a quand même quelque chose? Et puis, on vous demande aussi si on pense à examiner la santé mentale des personnes qui sont sujettes à ces manifestations parapsychologiques. Deuxième groupe de questions. Et puis alors, beaucoup d'autres vous demandent sur quoi toutes ces recherches vont déboucher, puisqu'on a l'air effectivement de tourner en rond, de pas encore savoir quelle porte vraiment pousser, ni même savoir où le chemin va nous mener. Alors on vous demande si vous êtes optimiste sur l'aboutissement de toutes ces recherches.
Oui,
c'est beaucoup de questions. Hein.
On dirait ici des questions de 64 000 piastres.
Oui, c'est ça, oui. Des questions à 1 000 francs, on dirait.
Ouais. Oui. J'affirme, encore là, c'est subjectif, là, qu'il y a d'autres choses que des illusions. Il y a d'autres choses que l'illusion ou l'hallucination lorsqu'on rapporte le phénomène psy. Cependant, alors pour moi, là, mon préjugé, à la suite de mes observations sur le terrain, m'amène à croire en l'existence de ces phénomènes-là. Maintenant, je ne suis pas porté à penser que ces phénomènes-là existent partout et tout le temps. C'est-à-dire que je serais plutôt porté à croire que les phénomènes psy sont des phénomènes de frange. On pourra y revenir tout à l'heure. Mmh. C'était la première question. L'autre, l'examen de la santé mentale des gens qui rapportent les phénomènes. Mais je crois que ici, au Québec, par exemple, il y a la Corporation professionnelle des psychologues du Québec qui a créé, il y a 2 ans, un comité de psychologie. Font partie de ce comité des psychologues cliniciens dont la profession est d'écouter les gens qui, entre autres, rapportent, vivent ce genre de phénomène-là.
Oui.
Et est formé aussi de physiciens, est formé d'ingénieurs, etc. Donc, c'est un comité multidisciplinaire. Alors, il est sûr que lorsque les gens nous rapportent ce genre de phénomène-là et que ça devient important pour leur vie, je ne parle pas d'une anecdote, quelqu'un qui rapporte un petit événement télépathique, par exemple, ça ne devient plus important pour leur propre équilibre. Mmh. C'est une anecdote comme ça, sans intérêt. Mais les gens qui sont, comme on dit ici chez nous, mal pris avec ce genre de phénomène-là, c'est sûr qu'on va beaucoup plus loin. La mesure de nos possibilités, pour autant, évidemment, qu'on soit ouvert. Mmh. Alors, ici, au Québec, il y a un organisme professionnel qui est ouvert à l'approche de ces phénomènes-là et qui va essayer de départager aussi l'aspect, le côté pathologique l'approche réelle du phénomène. Est-ce qu'il y a vraiment, là, il y a un stimulus réel, objectif qui s'est produit?
Oui, alors justement, là, je vous interromps, Louis Bélanger, parce que c'est une des questions qu'on m'a apportées. On nous parle, par exemple, de ce que vous avez appelé psyphonie. Alors, je crois que ça a été la grande mode en Allemagne. On aurait pu appeler ça les radioamateurs de l'au-delà, c'est-à-dire des gens qui branchent des postes à transistor, finalement, entre deux fréquences, et qui disent entendre des messages, par exemple. Alors, est-ce que vous êtes penché là-dessus? Vous avez entendu ces bandes? Et est-ce que vraiment quelqu'un, justement, qui est objectif, c'est-à-dire extérieur, en fait, à l'expérience, peut vraiment réentendre sur les bandes des voix et des messages?
Bon, j'ai eu l'occasion...
C'est ça la frange, dont vous parlez.
Oui, oui, mais là, il y a quand même de la provocation. Ce n'est pas un phénomène spontané de frange comme on retrouve sur le terrain. Là. Ça, c'est un phénomène où il y a une sorte de provocation. C'est mi-laboratoire, mi-terrain. Et on pense à Friedrich Jürgensen, qui a découvert en quelque sorte ce phénomène en 1959, d'un Suédois. Et j'ai eu l'occasion à 3 reprises de me rendre en Allemagne dans le cadre des recherches de l'Institut à ce propos-là. Et là, des gens rapportent donc, lorsqu'ils enregistrent pendant 4 ou 5 minutes, il y a 3 ou 4 personnes autour d'une table, ils enregistrent une conversation. Quelquefois, ils peuvent demander l'aide ou la communication de leurs amis de l'au-delà. Ils font l'enregistrement 4-5 minutes, ils font un silence, et puis ensuite, ils réécoutent. Ils écoutent à la reproduction, au playback, oui. Et là, ils entendent à l'occasion un chuchotement, un phonème, ou un ensemble de phonèmes, qui semble ne pas appartenir à un des participants, qui semble n'avoir pas été déclenché par un des participants. Alors là, on prétend justement, c'est ce que fait Jürgensen, qu'il a découvert le moyen de communiquer avec l'au-delà. Même, je me souviens, en Allemagne, dans le temps, Telefunken avait fait de la publicité en disant qu'avec leur appareil, on pouvait communiquer plus facilement qu'avec les concurrents, quoi. Eh bien, pour moi, il y a tellement de sources possibles d'erreurs. Et là, on revient justement au problème de l'illusion ou de la mauvaise perception. Il y a tellement de possibilités de sources d'erreurs. Quand on enregistre avec le microphone, il peut entrer d'autres ondes électromagnétiques, surtout s'il n'est pas isolé, de radio, par exemple, de poste amateur ou de radio taxi qui sont à côté. Lorsqu'on utilise la radio, c'est encore pire. Il y a beaucoup d'autres artefacts qui peuvent intervenir. Et moi, si je fais le bilan de ces recherches, où j'ai entendu toutes sortes de choses, où j'ai vu toutes sortes d'erreurs, les gens qui, à la reproduction, avaient laissé chevaucher une piste sur l'autre. D'accord, on entendait à l'envers et on supposait entendre une mélodie provenant de la 12e sphère céleste. Eh bien, à ce moment-là, moi, je suis très... Je dis qu'il n'y a pas d'approche féconde du phénomène. Il y a trop de sources d'erreurs. Alors, je pense qu'on perd notre temps de ce côté-là. Ce qui arrive dans les meilleurs cas pour moi, lorsqu'on a une fois de la psyphonie, c'est-à-dire la production, comme on a sur une barre de métal ou un objet qui bouge, une production soit sur une des parties de l'appareil enregistreur ou sur la bande magnétique, une production psychinétique. Ça, c'est très rare qu'on a pu l'objectiver, oui, comme on l'a fait à l'Institut, mais la plupart du temps, c'est ce que j'appelle la phonomancie, la divination par le son. Oui. C'est-à-dire qu'on a un son qui vient par la radio ou un autre bruit quelconque.
Qui n'est pas là, spécialement surnaturel, oui.
Non, pas du tout. Qui est tout à fait même normal, électromagnétiquement normal. Mais là, on pompe dans ce son-là toutes nos attentes, nos espoirs, la question qu'on a posée, les problèmes qu'on vit à ce moment-là. Et on croit entendre donc une confirmation provenant soi-disant de l'au-delà. Je pense que dans tous ces phénomènes-là, il est important de faire la grande différence entre un phénomène qui est constaté, ça vaut en parapsychologie, ça vaut aussi en ufologie, par exemple, un phénomène qui est constaté par quelqu'un et l'interprétation de ce phénomène-là. Et je pense que les grandes querelles, les querelles d'école, proviennent de la mésentente eu égard aux interprétations.
On a beaucoup de questions aussi qui nous viennent. Bon, d'abord, on nous demande si vous êtes intéressé également à la réincarnation. Ce serait peut-être trop long de répondre vraiment en détail à cette question-là à cette heure-ci. Et on nous demande également ce que vous pensez de l'inquiétude du public et si cette inquiétude, on la retrouve également chez vous au Québec à la suite de vos conférences. Par exemple, vous savez bien, 1984, l'alignement des planètes, Nostradamus, enfin, toute cette bouillie d'inquiétude, de millénarisme finalement à laquelle on assiste en tout cas en Europe.
Oui, oui, c'est beaucoup de questions ça, en même temps. Là. Comme vous dites, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, le problème de la réincarnation, pour moi, ça reste... Comme la réincarnation est un type de survie et qu'on n'a pas prouvé scientifiquement l'existence de la survie, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on raconte, pour moi, la réincarnation est un problème de foi. Je ne m'y intéresse pas sur le plan... avec toutes les techniques qu'on utilise actuellement, par exemple, ce qu'on appelle aux États-Unis les past life therapies, les thérapies par les vies antérieures et tout ça. Moi, je pense que c'est une mode et que ça va passer. Ça n'a aucun rapport avec une approche scientifique et rigoureuse. C'est un domaine de foi. Maintenant, la question des prédictions, là, avec justement le livre de Fonbrune et tous les autres, là, c'est inquiétant d'une certaine façon et ça porte même beaucoup de personnes à décrocher. Les jeunes, hein, et puis aussi des adultes, mais qui gardent quand même leur emploi, Dieu merci, dans ces temps difficiles, mais ça inquiète beaucoup de jeunes et je pense que on ne doit pas mettre l'accent sur ce genre de prédictions-là. Je pense que lorsqu'on fait de telles prédictions, on donne l'impression que notre destin dépend d'autres entités extérieures, que ce soit des extraterrestres ou que ce soit un dieu qui vengeur ou quoi que ce soit. Et nous réalisons quand même, et ça, la science aide à nous en faire prendre conscience, que nous sommes les artisans de notre destin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas qui se produisent dans le monde et qu'on ne comprend pas. au lieu de faire intervenir, comme on le faisait depuis, on l'a fait depuis des millénaires, une entité extérieure qui, de toute façon, est tellement loin de nous lorsqu'on la pose de façon idéale et absolue, pourquoi ne pas vraiment se retrousser les manches puis dire, bien, c'est nous, si nous arrivons à des difficultés économiques ou des difficultés politiques, c'est nous qui faisons en sorte que ces difficultés se produisent. Et à ce moment-là, qu'il y ait 10, 20, 100 ou 1000 prédictions concernant le futur, pour moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Moi, je pense que nous sommes les artisans de notre destin et on ne doit pas être démobilisé à partir de ces prédictions qui sont de toute façon pas vérifiables au moment où on les vit. Et après coup, le post-hoc, ce qu'on appelle, on peut dire n'importe quoi par la suite.
D'accord. Alors, je vous demandais de répondre à la dernière question, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission, Louis Bélanger. Est-ce que vous êtes optimiste alors, sur l'aboutissement de toutes ces recherches et sur quoi ça va déboucher un jour ou l'autre? On va trouver une explication de tous les phénomènes paranormaux?
Je ne pense pas. Mais je pense que ce n'est pas inquiétant, cette chose-là. Au contraire, c'est très stimulant. Je pense que, finalement, on a appris là, qu'on apprend beaucoup plus sur les chercheurs eux-mêmes, sur les gens qui acceptent l'existence ou refusent l'existence des phénomènes psy, que sur l'objet lui-même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si on n'a pas de succès pour isoler les phénomènes psy, isoler leur aspect physique, leur déclenchement en laboratoire et les faire se reproduire à volonté, ce que je ne souhaiterais pas d'ailleurs, mais ça, c'est un autre aspect.
Oui.
Et si on n'a pas de succès de ce côté-là, on peut avoir de grands succès en apprenant comment on connaît. Ça, c'est tout le domaine de l'épistémologie. Et ça, c'est aussi bon. Alors, à ce moment-là, l'étude des phénomènes psy ou le défi psychologique devient intéressant pour les scientifiques d'autres disciplines. Où là, eux-mêmes prennent conscience qu'ils ne sont pas des observateurs superbement distants de leur objet d'étude, mais qu'au contraire, qu'ils sont partie prenante et que leurs préjugés, que leurs attentes, que leurs espoirs, que leurs craintes, que ce qu'ils attendent de trouver, etc., voire l'effet placebo, a une influence sur leurs résultats. Et je pense que dans ce sens-là, on a beaucoup d'avenir en psychologie, pour autant qu'elle soit multidisciplinaire, évidemment. La quincaillerie psy, ou ce qu'on dit chez nous, les bébelles psy, là. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on réagit à ça.
Absolument.
Comment on se comporte.
Louis Bélanger, je vous remercie. Je vous dis bonsoir. J'ajouterai juste une phrase que j'ai piquée dans votre revue, Psylogue, où vous disiez « Il est urgent que la science se reconnaisse comme partie intégrante de la culture au sein de laquelle elle se développe ». C'est en quelque sorte ce que vous venez de dire aussi. Et j'espère qu'on aura des lendemains qui chantent. Merci, bonsoir.
Au revoir, Jacques.
Au revoir.